Nous sommes mercredi 13 septembre 2017, vous écoutez le Dojo Bar.
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 Bonsoir à tous, bonsoir Drosgar.
Bonsoir.
Bonsoir Galaxies.
Bonsoir.
Et bonsoir à notre invité Kenshin.
Bonsoir.
Kenshin qui est là en fait pour la deuxième partie de l'émission essentiellement puisqu'on va parler de ARMS, le jeu avec des bras élastiques et puis des...
Ok, je ferme ma gueule, je ferme ma gueule.
Mais on va commencer d'abord par notre traditionnel tour de table de l'actualité. C'est Drosgar qui va commencer puisqu'il n'a pas de sujet.
Alors, j'avais acheté il y a quelques années un livre donc d'un auteur qui a maintenant une chaîne YouTube et qui a maintenant écrit 3 livres, qui s'appelle Gastronogeek. Je vous avoue, j'ai fait aucune recette là-dedans parce que je suis un peu nul en cuisine, genre je sais faire des pâtes et parfois j'arrive à faire brûler un croque-monsieur. Mais vous savez les croque-monsieur qui sont déjà tout prêts dans une barquette là.
Ah merde, t'es balèze quand même.
Bah en gros genre chez moi j'ai les plaques, enfin chez moi j'avais des plaques électriques et la première fois où je me suis servi du gaz, j'ai mis à fond parce que j'en savais rien, chez moi fallait que je mette à fond pour bien se faire chauffer. Et le croque-monsieur il a duré environ 2 minutes avant d'être totalement noir. Mais il était bon quand même. Maintenant j'ai 3 cancers. Et donc ce charmant monsieur qui avait sorti du coup 3 livres, donc un sur des recettes, un par exemple sur tout ce qui est potions, etc. Qui regroupe en fait des cocktails, des sauces.
C'est ça, il y a un livre de cocktails, un livre de recettes, enfin de recettes on va dire de plats plus traditionnels.
C'est ça, et un inspiré des séries. Donc qui va être en général, qui va faire aussi bien des desserts, des cocktails, plats, mais que centré sur l'univers des séries. Là, il sort un nouveau livre, du coup, le 20 septembre, qui est très, très girly, parce que forcément, vu que c'est des gâteaux, c'est girly, hein, donc la couverture est totalement rose avec un cupcake dessus. J'espère que ce sera sponsorisé par Enjoy Phoenix. Qui est, du coup, Gastronogeek, la pâtisserie de l'image... J'arrive pas à dire la suite, de l'imaginaire. Merci, mon navigateur qui marche toujours si bien. Donc, Geek and Tasty. Franchement, le premier livre que j'ai a l'air assez sympa, enfin les recettes ont l'air quand même sympas, donc j'espère pouvoir en faire un jour maintenant que j'ai mon appartement. Celui-là, bah, c'est toujours au prix de 24,90€, hein, ça reste pareil. Ça peut valoir le coup, ou si vous avez une idée cadeau comme ça, bah, c'est assez intéressant pour une jeune fille qui aime un peu l'univers geek. Ça fait très cliché dit comme ça, hein, mais en vrai, ça peut matcher. Et puis après, derrière, si vous pouvez la pécho, c'est toujours un plus. C'était le petit conseil du... Légiste.
Merci, Drosgar.
C'est énorme, Douille.
Si tu veux, en coulisses, ça a été très compliqué d'insister. Galaxies, oui. Pour Super Mario 64 Online.
Eh oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est, Super Mario 64 Online, tu vous le demandes?
Mais dis-le-nous.
Mais qu'est-ce que c'est? Mais la France entière se demande
non.
Alors,
la France,
qu'est-ce
juste.
Que... La... Ah
France a
peur. La France, juste.
Oui.
Le monde.
Non, c'est Paris outragé. Bref. Donc,
on a 7 milliards d'auditeurs qui sont suspendus à tes lèvres pour savoir ce que c'est.
Et oui, 7 milliards 5, en effet. La surpopulation, tout ça. Alors, donc, c'est un mode pour Super Mario 64 sur émulateur qui permet de jouer en ligne jusqu'à 24 joueurs, donc à Super Mario 64. À supposer que vous ayez 23 autres amis qui ont ça à faire.
Qui ont un émulateur qui est capable de faire tourner la ROM,
qui est surtout le même,
qui a une manette
surtout
qui
le
marche,
même émulateur.
Qui est enfin
oui, c'est en tout cas ça permet de jouer, c'est assez austère parce que c'est pas t'as pas de serveur, c'est-à-dire faut rejoindre directement sur l'IP de ton pote. Mais ça permet donc de jouer ensemble déjà et puis en plus il y a différents personnages. Donc il y a combien de personnages? Je crois que c'est une douzaine.
Dont la trousse ou Waluigi.
Génial, arrêtez.
Il y a Yoshi, Wario, Peach, Toad, Waluigi et même Rosalina. Excellent. Harmony en français, c'est ça? Oui, je me trompe pas.
C'est bien Rosalina. Enfin, Harmony en français.
Et chacun, apparemment, ont leur propre habilité. D'après ce que j'ai compris, bah déjà Yoshi. Qui peut planer un petit peu une fois qu'il a fini son saut.
Peach aussi peut planer un peu dans les airs.
Oui.
Waluigi.
Il court plus vite, non?
Non, il a l'air con. C'est son, oui, c'est son pouvoir spécial.
Qui est son principal atout, hein, Waluigi, quelque part, c'est d'avoir l'air con et personne ne l'aime. Et Wario qui est petit et gros.
Il y a le petit gros et puis il y a le mec que personne peut saquer, quoi. Non, on est bien.
C'est génial. En tout cas, ce mode vous permet de jouer un petit gros si vous voulez. Voilà. Avec 23 potes. En passant par l'IP d'un de vos potes, voilà. Donc évidemment, il faut qu'il ouvre ses ports. Sinon, c'est pas drôle. Et c'est swag. Et bah, Nintendo l'a pas encore bloqué comme mode.
Alors, hein, ouais,
et il a pas encore calé tous ses avocats.
Alors, il a pas encore calé tous ses avocats, mais en fait, c'est très curieux parce qu'il y a. Il y a effectivement. Alors, je sais pas si Nintendo fait une différence entre les hacks, enfin, le ROM hack finalement. Ce que Super Mario 64 Online est, hein, c'est juste du ROM hack. Et des trucs un peu plus compliqués comme les fangames. Sachant que dans les fangames, t'as les fangames qui finalement respectent l'univers du jeu mais créent leurs propres assets, auquel cas Nintendo peut pas vraiment faire grand chose contre. Et puis t'as les fangames qui recyclent des assets existants. Alors, AM2R qui était peut-être Another Metroid 2 Remake, qui est peut-être l'exemple le plus célèbre puisque lui il s'est fait descendre rapidement. Alors, il y avait Metroid Samus Returns qui n'avait pas encore été annoncé à cette époque-là, qui devait probablement être en développement depuis un moment, ça doit être une raison. Mais surtout, les mecs réutilisaient des assets de Metroid Zero Mission et Metroid Fusion. Et je pense que c'est surtout ça qui a pas plu à Nintendo.
Oui, et même, petite théorie personnelle pour le coup, je sais pas ce qu'elle vaut, mais à mon avis, c'est ce que je disais en off, à mon avis, Nintendo n'est pas foncièrement contre les modes et autres, enfin hacks de jeu, etc. Genre fan game. L'idée, c'est juste, bah, comme le disait Mortal, le fait qu'il y ait quelque part, enfin, un problème de propriété intellectuelle, oui. C'est quelque part un moyen de se protéger par rapport à un éventuel, s'il y a un problème à un moment donné, de pas avoir à se justifier de pourquoi on n'a pas condamné les 15 autres jeux. Je pense que si Nintendo était foncièrement contre les fangames, ils auraient pu arrêter le développement en plein cours et pas le laisser sortir comme on a eu avec Pokémon Uranium ou Yet Another Metroid 2 Remake. Donc je pense vraiment qu'ils sont pas foncièrement contre, mais c'est plus pour se protéger juridiquement. Voilà.
Le problème,
je sais pas
c'est
ce que
c'est leurs avocats sont un peu déconnectés de la réalité, ils se rendent pas compte du nombre en fait de personnes qui fait des fangames, ils se rendent compte surtout au moment où bah, les sites spécialisés viennent en parler. Et jusqu'au moment où vraiment la lumière vient sur ces jeux-là, donc bah, AM2R par exemple, il a vraiment éclaté, tout le monde en parlait, bah, Nintendo va pas faire grand-chose parce qu'ils sont parfois même pas au courant en fait de l'existence du développement de ces jeux. Donc c'est ça en fait, c'est qu'ils sont un peu hors d'atteinte.
Ah ouais, tu parce le vois que... comme ça.
Bah je le vois comme ça parce que en vrai ils sont strike à chaque fois et forcément parce que Nintendo les propriétés intellectuelles, c'est un sujet un peu particulier pour eux et ils tiennent quand même à préserver leur licence et ils ont pas non plus envie qu'un jeu, même si c'est un fangame, puisse affecter la qualité de leur licence. Et un fangame par exemple Pokémon va avoir des problèmes de physique, va avoir des problèmes comme ceci, et des gens bah, qui ne connaissent pas forcément trop l'univers du jeu vidéo vont l'associer à Pokémon et ils ont pas envie que ce raccourci soit fait, ils ont envie de conserver le côté un peu élitiste de leur licence. Le côté un peu perfection qui a été bichonné en interne.
C'est bien possible, mais il y a aussi effectivement, alors le fait est, des ROM hacks, il y en a de toutes sortes, et il en sort des dizaines par jour.
Oui, d'ailleurs, ça fait longtemps que on peut jouer en coop sur
oui,
Super Mario
64.
Là, le vrai truc, c'est de pouvoir jouer à 24. Quoi.
Voilà, pouvoir jouer à 24, pouvoir jouer online, parce que des ROM hacks qui permettaient de jouer Mario et Luigi en même temps dans le même niveau, il y en a depuis un bon moment même. Il y en a même qui existent en écran splitté et autres. Donc ça n'a rien d'exceptionnel. Alors après, le problème c'est toujours le même. Je ne sais pas si c'est une question de succès ou qu'on en parle beaucoup. Je pense qu'il y a un peu de ça quand même, dans le sens
oui, c'est où... C'est médiatisé, je pense.
Ouais. Effectivement, c'est le côté médiatisé. C'est-à-dire tant que ça n'a pas finalement percé auprès du grand public qui va se retrouver tenté d'aller sur le site de Another Metroid Prime 2 Remake... et d'aller le télécharger, globalement, bah, Nintendo s'en fout, ça reste pour des petites communautés très fermées, avec des petits forums qui payent pas de mine, où il y a 3-4 hackers qui s'amusent, quoi. Si tu arrives à 3 millions de téléchargements, c'est un petit peu plus problématique.
Je suis bien d'accord.
Voilà. Bref, je vais terminer ce petit tour de table de l'actualité avant qu'on attaque ARMS. avec un petit projet dont j'avais parlé il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle Steel Stick 64. C'est très compliqué à prononcer. Steel Stick 64. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Qui était un monsieur qui s'était amusé à refaire dans sa petite forge personnelle un stick N64 en acier inoxydable. Histoire de dire, bah ouais, le problème des sticks N64, c'est l'usure sur le plastique, donc on va pas le faire en plastique, on va le faire en métal, et on va mettre des capuchons dessus en silicone, et on va se débrouiller pour faire un truc bien. Et il avait fait à cette époque un premier prototype, et tout un tas de comparaisons entre ce prototype, une manette N64 officielle neuve, des manettes N64 d'accessoiristes tiers, genre Ori, et ainsi de suite. Donc il avait fait tout ce bazar-là, et il en avait déduit que bah ouais, son stick métallique, il était meilleur que les autres, il était au moins équivalent à ce que faisait Nintendo à l'époque, sauf que en plus, lui, il pouvait supporter de faire 15 heures de Mario Party sans lâcher. Ce qui est quand même pas si évident que ça. Voilà, donc le monsieur a fini son projet, il s'est dit bon bah voilà, maintenant on va essayer de voir si on peut le vendre. Et c'est là qu'on a un problème, puisque le stick est vendu 125$.
Il se voilà. Fait pas chier.
C'est un peu problématique, donc je veux bien qu'il y ait des coûts et que ce soit pas si facile que ça, et apparemment le truc est en précommande, et en fait ce qui se passe, c'est que dès qu'il a un badge de 200, il les fait. Je pense que il le fait en grande partie à la main. Et il doit y avoir assez peu d'industrialisation du process derrière, et à mon avis c'est pour ça que ça coûte aussi cher. Du coup voilà, c'est sur le papier un projet qui était très intéressant, mais comme il y a pas mal d'autres alternatives qui existent sur N64 pour avoir des sticks corrects, notamment l'adaptateur Raphnet dont j'ai parlé il y a quelques jours, mais aussi les manettes Ori qui coûtent certes un petit peu cher, mais pas si cher que ça, enfin bref, il y a quand même moyen d'arriver à jouer sur N64 de manière correcte, sans aller jusqu'à ce genre d'extrémité qui est peut-être un peu bourrin, hein, 125$ pour juste un stick.
C'est voilà, très très cher.
C'est très très cher. Bah, si tu dois équiper tes 3 manettes, t'en as pour 500$.
Enfin, c'est très manettes, très cher, c'est peut-être explicable en termes de coût. Mais c'est vrai que.
À mon avis, c'est parfaitement explicable en termes de coût. Mais
pour le consommateur, c'est. Ouais, voilà.
Ouais, c'est un sacré putain d'investissement même. Enfin, ça va être compliqué d'arriver à justifier ça dans ton budget, quoi. Surtout pour le Woman Acceptance Factor, hein, je rappelle, le WAF. Le WAF. Le Wife Acceptance Factor, c'est-à-dire si tu ramènes à la maison une télévision de 65 pouces, ta femme va peut-être gueuler.
Ah, tu arrêtes à 55 d'ailleurs.
Voilà, tu vois, tu t'arrêtes à 55 parce que t'es raisonnable. Donc le Woman Acceptance Factor, c'est ça, c'est-à-dire tu ramènes à la maison une barre de son, elle dira rien, tu ramènes un 5 points avec deux enceintes gigantesques, elle va peut-être gueuler. C'est important comme paramètre. Bref, avant de parler de Arms, on va se faire une petite pause musicale, on va s'écouter un petit morceau de la BO de Arms, qui a été composé par je ne sais pas qui, parce que j'ai pas fait mon boulot avant.
On peut le chanter.
Comme tout le monde ici.
Je voulais le générique de Mario Odyssey, moi.
On le remettra.
Oui, toute la vie je veux l'écouter.
Alors, Arms, on va écouter. Alors, ce qui est dommage un petit peu avec la BO de Arms, c'est que finalement c'est le même thème. Voilà, c'est toujours la même musique qui est recyclée dans tous les niveaux, mais avec des petites variantes. Voilà, donc c'est un petit peu dommage parce que finalement il n'y a pas beaucoup de variété sonore. Splatoon en comparaison a vraiment beaucoup, beaucoup plus de variété. Mais voilà, là on va s'écouter un morceau qui s'appelle donc Cinéma 2, qui est en fait le stage de Twin Tail, qui est donc une variante du thème principal de Arms. On se retrouve dans un petit peu plus de 3 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour.
Tour.
Pour parler de Arms.
Tour.
Arms.
Ça marche
bien. Arms, ça c'est bien.
Arms, c'est très bien. Mangez-en. Voilà, c'est fini pour ce soir.
Voilà. Bonne soirée. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Énorme bisous.
Non, Arms, c'est très 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 bien. Je vais juste faire les deux trois petits rappels de base. Donc c'est un jeu de combat un peu particulier parce qu'il se joue à la troisième personne. Alors un peu à la manière d'un Punch-Out. Je sais que Punch-Out va venir sur le tapis à un moment. Ça n'a pas grand-chose à voir en termes de gameplay avec Punch-Out. Punch-Out est beaucoup plus un jeu de rythme. En réalité, c'est la boxe, il y a deux bases en boxe, c'est le rythme et l'esquive. Et finalement, Punch-Out emprunte le rythme et Arms emprunte plus le côté esquive. Comment que c'est fait ? Eh bien, tous les combattants en fait ont des bras à rallonge, des bras à ressort. Alors il y a un lore assez marrant avec le fait que c'est leur masque qui fait qu'ils ont des bras à ressort. Enfin, c'est un peu chelou.
Nintendo.
Ouais, c'est Nintendo, quoi. Enfin, faut pas trop chercher la logique là-dedans. Mais l'idée, c'est qu'un vrai boxeur, en fait, voit les coups partir des épaules de son adversaire. C'est-à-dire qu'un vrai boxeur passe son temps à regarder les épaules de son adversaire, et quand il voit l'épaule partir, il sait que le coup va partir. L'idée, c'est que ça, c'est très compliqué à retranscrire dans un jeu. Du coup, quand les mecs ont des bras à ressort, bah, en fait, quand leurs coups partent, ils partent beaucoup plus loin, finalement. Et donc c'est beaucoup plus facile à anticiper. De la même manière, pour éviter le phénomène Wii Boxing, parce que je sais que celui-là aussi va venir sur le tapis à un moment.
Il était très bien.
C'est trop bien Wii Boxing, arrêtez.
Meilleur jeu de boxe ever.
C'est un jeu de boxe quand même très basique.
Sauf que t'avais juste à taper, quoi.
Bah, le problème, en fait, c'est surtout que tu peux bourrer comme un sac et que ça finit par passer. Là, comme les bras à ressort ont une latence, parce qu'entre le moment où tu lances ton bras et le moment où il atterrit réellement dans la cible,
ça dépend de la distance.
Ça dépend, ouais, on est bien d'accord, ça dépend de la distance. Quand t'es très près, ça peut partir très vite. Mais la plupart du temps, comme t'es obligé quand même de rester à une certaine distance, tu le vois arriver de loin, et surtout, tu peux pas vraiment bourrer, à part quand t'es en furie. Et encore.
Encore.
Et encore, ouais, parce qu'il faut quand même pas rater le mec.
Faut avoir le timing.
Exactement. Donc, tu peux pas bourrer comme un sac, t'es vraiment obligé d'anticiper les mouvements de ton adversaire, qui va lui-même anticiper tes mouvements. Et il y a une espèce de jeu un petit peu de pierre-feuille-ciseau, dans le sens où la garde va contrer les coups, les palais chopent. Drosgar, tu sors. Ah, mais... c'est cuit.
Quoi ? Ce truc qui sort de nulle part.
C'est pas grave, tout va bien. Donc la garde va contrer les coups. Les chopes vont contrer la garde, et je crois que les coups contre la chope, c'est bien ça ?
Tout à fait.
J'ai jamais réussi à faire ça correctement, moi, dans le
Comment
jeu.
Comment ça ?
Moi, je l'ai fait à la base. Game.
Alors, c'est la base...
Tu joues contre des Ninjara qui spamment la chope et tu sauras faire.
Ouais, mais d'accord, mais Ninjara... Non, mais Ninja... Est-ce qu'on peut éviter de parler des personnages complètement abusés dans ce jeu ? Parce que Ninjara, c'est un peu n'importe
pas
quoi.
Pas tant que ça, en fait.
Bah, pas tant que ça, un peu quand même.
J'sais Alors, pas, c'est quoi un Ninjara ?
Un personnage.
C'est un personnage. Donc il y a au total, c'est quoi ? C'est une dizaine de personnages, puisque maintenant il y a le boss de fin qui est débloqué aussi.
C'est ça.
Et ben c'est drôlement rigolo, Arms. Donc pourquoi Arms, c'est bien ? Pourquoi il faut y jouer ?
C'est une question ?
C'est une question.
D'accord. C'est bien parce que c'est fun, c'est coloré. Donc c'est beaucoup plus technique que ce qu'on peut croire en fait, vu que comme tu l'as dit, il y a l'histoire du pierre-papier-ciseau qui fait que t'es toujours en train de chercher à anticiper ce que va faire l'adversaire, t'es toujours en mouvement si tu joues pas trop mal, et donc c'est réussir à faire des feintes, à lancer un point pour obliger ton adversaire à se déplacer à un tel endroit, envoyer ton autre point, ou au contraire lui balancer une chope parce que tu sais qu'il va bloquer, donc c'est vraiment... C'est vraiment plus complet que ce qu'il y paraît. Faut s'entraîner pas mal pour choper un bon niveau, surtout si on veut jouer en ligne. Et voilà, après, il y a pas mal de mises à jour qui permettent de...
Mais j'allais dire, il y a pas mal de... Ouais. Déjà, rien que le mode solo est déjà assez hardcore. C'est-à-dire que... C'est 9 niveaux... 7 niveaux, pardon.
Oui.
Je dis pas de bêtises,
c'est ça. Non, c'est plus que ça, c'est 9.
C'est 9 niveaux,
ouais.
Et en fait, pour participer au match classé, il faut finir au moins le niveau 4, avec au moins un personnage. Et en fait, le truc rigolo, c'est qu'au départ, bah, le niveau 1, en général, on traverse assez facilement.
Ouais.
Parce que ça va. Et à partir du niveau 2, on prend déjà des sacrés raclés. Alors que pourtant, les mecs sont pas si forts que ça, mais les IA sont vraiment ultra brutales, quoi.
Oui, puis c'est le temps de comprendre, en fait, que c'est un peu moins bourrin que... Et en e-sport ou...
En fait, c'est assez bizarre parce que c'est vrai que par rapport à un jeu de boxe, dire Punch-Out, c'est vraiment juste un jeu de rythme. Hein. Faut pas chercher, c'est il y a pas vraiment d'anticipation. Il y a apprendre les patterns de l'adversaire et puis répondre en rythme à ces patterns-là. Mmh. Là, alors il y a pas vraiment de pattern de l'IA, même si l'IA a tendance à jouer les atouts de chaque personnage, parce que chaque personnage a un atout particulier. Typiquement, Ribbon Girl, par exemple, peut faire un quadruple saut, si je dis pas de bêtises.
Ouais.
D'accord.
C'est ça.
Et ouais, pour pouvoir esquiver, en fait, ou pour se déplacer
ça, pour se déplacer ou esquiver, les deux.
Les deux.
Ah, d'accord.
Tu peux, en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux faire une esquive à gauche, à droite, avant, arrière, c'est-à-dire ça fait vraiment comme une espèce de petite impulsion, comme un dash, quoi.
D'accord.
Pratiquement comme un... Si tu connais un peu Guilty Gear, t'as le système de dash, en fait, ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire le fait que tu peux aller cancel un coup et dasher à gauche, dasher à droite très très vite, c'est-à-dire faire vraiment hop, hop. Et t'as un saut qui peut te permettre aussi éventuellement d'esquiver ou de te déplacer un peu plus vite, et ainsi de suite.
Et en fait, tu peux faire une esquive pendant un saut aussi. C'est
exactement.
Très important.
Parce que tu peux enchaîner saut puis esquive, qui fait que ton personnage va sauter et va se décaler légèrement. Et effectivement, c'est extrêmement important parce que ça peut permettre d'esquiver plus facilement. Et ça peut permettre surtout, si le mec n'a pas anticipé le fait que tu allais faire une esquive en l'air, donc il va lancer son poing pour essayer de te choper en l'air. C'est exactement comme dans Quake 3. Quand un mec est en l'air, c'est beaucoup plus facile de le toucher avec une roquette parce qu'en fait, son mouvement est très prévisible. Donc tu peux balancer ta roquette pour atteindre le mec au plus haut de son saut. Ben là, c'est le même principe, sauf que si tu lances ton poing pour essayer d'atteindre le mec, donc tu vises en fait le point culminant de son saut, et que le mec fait une esquive, derrière, t'es complètement ouvert et tu peux te reprendre... Enfin, tu peux te reprendre une chope, tu peux avoir très très mal au pied.
Tu peux lancer ton deuxième poing.
Ah oui,
tu peux lancer ton deuxième poing. Oui, il y a aussi le fait que si tu joues en tout cas en motion control, et ça c'est ultra important, et ça fait partie vraiment de tout le sel du jeu, c'est que tes deux points sont totalement indépendants l'un de l'autre.
Comme dans la vraie vie, en fait.
Comme dans la vraie vie.
Ça dépend pour qui.
Alors, comme s'il y a un manchot, il n'a pas de points. Alors c'est très oppressant ce que vous dites.
Désolé à tous les manchots qui nous écoutent.
Voilà. N'oubliez pas d'appuyer sur espace avec votre tête pour couper.
On va atteindre l'alerte Raptor d'ici donc.
Ça y est, on va atteindre le point de non-retour.
Donc du coup, et il y a aussi le fait en motion control, est-ce qu'il y a avec la manette le fait de pouvoir diriger ses points?
Alors,
fois en l'air.
En motion control, tu l'as, c'est-à-dire effectivement, t'apprends assez vite que quand tu lances ton point et que tu inclines en fait ton point vers la gauche ou vers la droite,
Ça tourne,
voilà, ça, tu donnes un effet. Tu peux donner un effet soit finalement soit rentrant, soit sortant, soit convergent, soit divergent.
Sachant qu'il y a des points qui sont plus sensibles que d'autres effets, qui plus est.
Oui, parce qu'effectivement, t'as aussi les différents types de points. Quand je vous dis que c'est super riche, c'est vraiment...
On n'a pas parlé de ça, en effet.
On n'a pas parlé de ça.
En termes de customisation, t'as quoi?
Alors, tu peux donner l'effet à tous tes points, et en termes de customisation, tu peux choisir, avant un combat, tu as trois types de points que tu peux équiper indépendamment sur chaque bras. Et chaque point va avoir des particularités. Il y a des points qui donnent plusieurs coups. Il y a des points qui sont juste des gros points qui font très mal.
Il y a des points en retardement.
Il y a des boucliers.
Voilà, aussi.
Il y a des points explosifs. Des boomerangs qui permettent de lancer un point. Enfin, c'est du point
à retardement. Ça lâche un boomerang à la fin de ton coup.
Voilà.
Vas-y. Et il y a aussi la possibilité que chaque point en fait chargé a une nouvelle fonction, notamment donc on peut charger des coups en se concentrant ou en restant appuyé sur la touche d'esquive par exemple. Et une fois chargés, ils ont une attaque élémentaire. Donc on peut électrifier l'adversaire, le glacer, le brûler. Donc pour infliger plus de dégâts ou l'immobiliser après pour lui rebalancer un autre coup derrière. Donc il y a toutes ces subtilités.
Mais donc du coup quand on charge le poing, on est possiblement plus vulnérable?
Non. Non, pas spécialement, comme on se tient en général à distance, on a le temps avant que l'adversaire puisse faire quelque chose, on esquive, on est tout le temps en mouvement presque, donc...
D'accord.
Le jeu est impressionnant pour ça, à part quand tu joues Master Mummy où t'as tendance à être un petit peu plus statique parce qu'il est un peu plus lourdeau. mais je crois que c'est le seul personnage. Tous les autres, en fait, si tu je pense que si tu regardes un combat de Arms en caméra libre, enfin, le truc bouge tout le temps, quoi. Tout le monde est tout le temps en train de bouger. T'as personne qui est statique, à quelques exceptions près. Master Mummy a tendance à être un peu plus statique parce que son pouvoir spécial, en fait, c'est que quand il est en garde, il récupère de la vie. Donc, t'as tendance à garder beaucoup plus souvent qu'avec les autres personnages. Parce que forcément, tu vas essayer de récupérer de plus de vie. Ce qui fait que c'est pas forcément un personnage très facile à jouer, d'ailleurs, parce que, pareil, il est très lourd, ses esquives le portent pas très loin, ses sauts sont pas vraiment surpuissants. Donc, il est peut-être un petit peu plus compliqué à jouer. À tes souhaits.
Ouais, je pense pas. Parce que j'ai justement eu l'occasion de l'essayer il y a pas longtemps, en fait, mes potes débutants étaient meilleurs aussi avec Master Mummy qu'avec d'autres personnages. Le côté bourrin qui contre un peu tous les points, au final, ça aide pas mal. Parce que ça, on n'a pas eu l'occasion de parler de ça non plus, mais du coup, il y a des points plus gros, plus lourds, qui permettent de contrer les autres points.
Oui, qui contre les points moyens, voilà. Qui contre les points légers, et je crois que c'est tout. Il n'y a pas de système de pierre-feuille-ciseaux sur celui-là, où les points légers...
Non, je pense pas.
Alors le seul truc, c'est voilà, t'as des points légers qui sont beaucoup plus rapides à porter un coup, c'est-à-dire entre le moment où on déclenche le coup... Et le moment où il est vraiment porté à l'adversaire, relativement à la distance, bien entendu, ça va beaucoup plus vite, alors que les points lourds ont tendance à mettre plus de temps à traverser, finalement, le terrain de jeu pour atteindre l'adversaire.
Donc, ouais, parfois... Ce qui fait qu'on a un avantage défensif, mais sur le plan offensif, du coup, après, c'est un peu plus compliqué.
C'est ça.
De l'envoyer, quoi.
Et des fois, ils attendent pas non plus tout le bout de l'aire de jeu. Ils ont chacun leur limite de distance.
Donc tu te retrouves quand même avec un jeu sacrément complexe, quoi. T'as différents types de points, des attaques élémentaires, tout un système de charge, de protection, d'esquive, de saut. Enfin, t'es quand même dans des trucs assez... C'est surprenamment technique, c'est-à-dire que de prime abord, nous, quand on l'a vu la première fois, à chaque fois, on s'est dit « c'est super bourrin ». Et en fait, la première partie qu'on a faite avec Pab, on s'est rendu compte que non, c'était beaucoup plus subtil que ça. Rien que sur la première partie, on s'en rend compte. Et dès qu'on commence à creuser un petit peu le jeu, c'est vrai que faut quand même s'accrocher. Hein.
Pour peu que tu joues avec quelqu'un qui joue bien, c'est assez marrant de voir justement que tu n'arriveras presque jamais à le toucher, qu'il va te mettre débranlé, que tu vas chercher à envoyer tes points. Et en fait, lui, il va juste il va esquiver, contrer au bon moment, tout ça. C'est là où tu comprends que c'est vraiment recherché comme système.
Effectivement, c'est ultra recherché. Drosgar, je t'interdis de dire que tu... Enfin, tu m'as mis une branlée deux fois.
Deux fois, j'en suis
très
fier.
C'était la chance du débutant, mais tu avais Twintel, et je considère que Twintel, c'est un personnage de merde.
Non, parce que je m'étais fait éclater par Obvious à la présentation de la Switch en janvier, et du coup, je m'étais dit que le jeu n'était pas fait pour moi, et puis lorsque je t'ai éclaté, j'ai quand même un peu reconsidéré la chose.
Ah, that's my boy.
J'étais pas échauffé.
Et au final, je sais pas, le jeu m'intéresse pas plus que ça. Enfin, j'ai la Switch, hein, j'aurai le budget pour me l'acheter finalement, mais j'ai peur de pas y jouer assez en fait, ou de m'en lasser assez vite. C'est le genre de jeu justement comme ça. C'est pas comme un Mario Kart en fait, où finalement bah, t'as quand même les courses et tous les potes jouent à Mario Kart. Là, j'ai l'impression que mes potes auront moins envie d'y jouer, et au final, il va rester dans un placard et j'y toucherai jamais.
Alors, c'est ça qui me bloque un peu. Mais c'est d'accord. Justement, je vais revenir aussi sur ce que disait Mortal sur le mode solo. Alors, le mode solo est assez vaste, mais au final, on a du mal à y revenir, je trouve.
Quelques fois, c'est tout.
Non, tu le fais plusieurs fois, notamment pour atteindre le niveau 4, pour pouvoir débloquer les matchs classés en ligne. Mais surtout, il y a un système pour débloquer les armes pour chaque personnage qui est assez relou et qui t'oblige à refaire des matchs, surtout en solo, même si en ligne tu peux aussi gagner des points pour débloquer ces armes, mais le plus rapide c'est le solo, et c'est un peu à force en fait tu te lasses, alors qu'en jouant entre potes ça passe plutôt bien quand même.
Ouais, parce que le problème du solo en fait, c'est que c'est l'équivalent d'un mode arcade finalement, c'est-à-dire t'as 10 matchs pour atteindre le boss final, et après c'est comme dans les shmup, alors je suis désolé, un spoiler alerte,
les shmup.
C'est comme dans les shmup, t'as un true last boss, c'est-à-dire que en fait, quand tu te bats du niveau 1 à 3, le boss de fin c'est Max Brass, qui est un personnage assez marrant en fait, qui est assez rigolo à jouer d'ailleurs, espèce de gros costaud avec une banane, enfin ces personnages sont tous un peu délirants, et c'est ça qui fait aussi un peu le sel du truc. Et à partir du niveau 4, quand tu as battu le true last boss, quand tu as battu pardon, Max Brass, tu te retrouves face au Troulas Boss qui en fait est un est une espèce de tête je sais pas, de tête désincarnée qui se met sur le corps de Max Brass et qui a 6 points, 3 à gauche, 3 à droite, et qui est donc relativement difficile à battre. Hein, il faut
et
le dire.
C'est... Quand tu parles de niveau, c'est-à-dire tu refais les 10 niveaux, enfin, tu refais alors les non, 10 matchs, voilà.
Niveau,
et tu
c'est
passes
le
un
niveau de difficulté. Le niveau, ouais. C'est le niveau de difficulté.
D'accord. Et après, il y a les stages, quoi, on va dire.
Et après, voilà, entre deux, il y a les... Tu as 10 stages, en fait, où tu affrontes 10 personnages, sachant que, pour couper un petit peu, tu as des matchs de boxe classique dans lesquels tu dois gagner 2 rounds, 99 secondes, enfin, c'est vraiment un jeu de combat, quoi. Donc, si tu veux, il n'y a pas beaucoup de différence là-dessus, à part sur le fait que ça se joue en TPS, finalement. Et ce que moi j'ai trouvé un peu lourdingue d'ailleurs, c'est que tu as des épreuves qui sont pas vraiment des matchs. Tu as le volleyball, le basketball et
les cibles.
Les cibles. Et je crois que les cibles, c'est le truc qui nous a fait le plus rager, voilà, Kenshin, c'est les cibles. Donc le basketball, vous avez tous vu ce que ça donnait. En fait, le principe, c'est que quand tu fais une chope sur l'adversaire, tu le balances dans le panier de basket.
Parce que 100% des fois.
Quasiment 100% du temps. Donc c'est le basket.
Ça, c'est le plus fun.
C'est un des plus fun, mais c'est pas forcément le plus facile. Enfin moi je sais que le basket à chaque fois je me prends l'ordinateur mais des lattes mais alors ultra violentes. Et il y a le volleyball qui est je trouve plus rigolo. Donc le principe c'est que tu tapes à un ballon de volley et en fait au bout d'un moment il finit par exploser et quand il explose chez toi bah forcément t'es mal. Tu meurs. Et les cibles, qui est peut-être le truc le plus atroce, t'as un champ de cibles mouvantes entre toi et ton adversaire, et l'idée c'est qu'il faut en détruire le plus possible, sachant que si tu touches ton adversaire, t'as des points bonus. Je me souviens plus exactement.
C'est ça.
Je l'ai eu très peu souvent, moi, en fait, les cibles, je suis assez content parce que je suis passé au travers à chaque fois.
À chaque fois.
Putain, je sais pas comment tu fais.
Ah, je sais pas non plus. J'ai jamais vu.
Pourquoi c'est random ?
Bah, il paraît.
C'est random, c'est-à-dire qu'à partir du. Je crois que c'est le quatrième stage. T'as une épreuve spéciale et c'est le 8ème stage où t'as une épreuve spéciale aussi.
Pas tout à fait. D'accord. Ça, mais dans l'idée c'est ça.
Dans l'idée c'est ça. Un peu comme sur un Street Fighter 2, tu sais, où t'avais les bonus stage.
Ah, où tu défonces les voitures là.
Voilà.
Les hooligans.
Voitures, t'as les voitures, les tonneaux, les machins. Bah là c'est un peu le même truc, t'as genre 3-4 épreuves spéciales.
Et sauf t'as que là, si un adversaire. T'as un adversaire et si tu bats pas l'adversaire, bah tu passes pas au stage suivant. Et ça peut être. Sur les cibles, ça peut être très 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 long.
Ouais, les cibles, j'ai jamais. Enfin. J'ai jamais compris comment tu faisais. À chaque fois que j'ai réussi à passer les cibles, c'était pas souvent, heureusement, mais j'ai toujours eu l'impression que c'était un coup de bol, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. D'accord, on va.
Non, c'est.
Et en dehors de ça, donc il y a un mode de jeu en ligne qui est d'ailleurs super bien foutu, avec des lobbies. En fait, dans les lobbies, je sais pas si vous vous rappelez du Global Test Punch, mais en gros, les lobbies. Est-ce que le chat peut fermer sa gueule ? On n'est pas aidé.
Laisse-le, le chat.
Non, mais il
voilà, nous contrôlera tous.
C'est le cochon d'Inde. Quand c'est pas le cochon d'Inde, c'est encore autre chose.
Ah bah, il est pas encore mort, le cochon d'Inde.
Non, mais
il s'est fait manger par le chat.
On espère tous. Je lui donne des trucs toxiques en fait.
Oh pour c'est l'inverse. C'est le cochon d'Inde qui a mangé le chat. Et là, c'est le cochon d'Inde. Il se fait passer pour le chat pour couvrir son meurtre. C'est ça. Putain, mais incroyable. Et c'est. Mais, je sais
regarde,
pas.
Rappelle-moi pourquoi on invite Galaxy à chaque fois.
Parce que c'est un 2000 et ça fait un quota.
Ah oui, c'est comme les noirs. D'ailleurs, on n'a pas de noirs d'ailleurs, merde. Et on a un asiat.
Galaxy, ça suffit.
On va se faire engueuler par le CSA.
Attends, si ça se trouve, on est dans les stades du CSA. Non, je déconne.
Putain, ça se trouve, on aura Hanouna pour la saison 11.
Ouais.
Moi, je dis, j'ai lancé le défi pendant la pause musicale, inviter Julien Chiez pour la saison 10.
Oh, par contre, faut pas qu'il écoute un de nos podcasts pour savoir ce que c'est à peu près machin.
Julien, si tu nous écoutes,
si on le
je
fois,
t'emmerde. Mais profondément.
Non, je t'aime, il veut dire. Il a son propre de la tourette. Faut pas.
Faut
on
pas
t'aime,
faire attention.
On t'aime. Tu viens, s'il te plaît. Tourette.
Bref, donc les j'en étais au lobby, hein, parce que voilà. Donc en fait, tu rejoins des parties, tu rejoins un lobby où il y a 10 joueurs, et en fait, exactement comme dans le Global Test Punch. T'as des parties qui se lancent où il y a soit 4 joueurs, donc 2 contre 2, soit 3 joueurs, donc chacun pour sa peau, soit 2 joueurs, 1 contre 1, dans différentes épreuves. Et en fait, le truc, c'est que t'attends jamais très longtemps parce que t'attends pas un adversaire pour faire un match. En réalité, tu es dans un lobby dans lequel tu vas, dès que t'as fini ton match et qu'il y en a un autre qui a fini son match, bah, tu vas aller rejoindre finalement une autre partie, mais dans le même lobby. Et ce système-là est super bien foutu parce que ça évite d'avoir des temps d'attente énormes entre chaque partie. Et finalement, tant que tu restes dans le même lobby, bah, t'affrontes effectivement un petit peu toujours les mêmes personnes, mais tu fais des matchs différents à chaque fois. Et enfin, ça permet vraiment de varier, et c'est finalement assez simple comme fonctionnement. Dès que t'as fini un match, paf, t'enchaînes tout de suite, il n'y a vraiment pas de temps mort. Et je trouve que ce mode en ligne est vraiment super agréable. À côté de ça, il y a le mode classé. Alors là, ça devient
Alors ça, c'est sérieux.
Là, c'est, ouais, voilà, c'est un peu comme dans Splatoon, là, ça rigole plus. Hein. C'est les ranked match. Je sais pas jusqu'où t'es allé, jusqu'à quel niveau, Kenshin, en
3 ou 4, classé. Ouais, ça fait un petit moment que je m'y suis parmi, donc 3 ou 4, je sais plus.
Parce que c'est... Enfin, c'est... On tombe des fois sur des mecs bien bourrins, quoi. Quand tu tombes sur un japonais, mon gars, t'es bien dans la merde. Hein.
Comme dans tous les jeux, quoi.
Splatoon aussi, quand tu tombes sur une équipe de japonais, tu sais que tu vas pas faire long feu.
Mmh. Surtout, est-ce que le matchmaking, il est aussi... Il est aussi pérave que sur Splatoon. Parce que sur Splatoon, d'après ce que j'ai vu, genre les niveaux, ils sont jetés au dé... Les équipes sont complètement faites au hasard.
Ah non, quand même pas sur Arms.
Non, sur Arms, c'est raisonnable. Enfin, moi, ouais. Quand j'ai démarré niveau 0, j'ai affronté un niveau 1.
Ouais, c'est ça.
Et je crois que j'ai dû aller jusqu'au niveau pareil 3-4, parce que c'est... Ah, si, depuis que Splatoon est sorti, c'est vrai que Arms... C'est très agréable, mais comme il faut... je trouve qu'il faut du temps pour se mettre dedans. Enfin, ouais. Moi, j'ai vraiment besoin de m'échauffer, en fait, pratiquement. Il faut du temps pour se mettre dedans, d'accord.
Mais
je trouve qu'il pourquoi
on l'invite, Rosgar, rapidement.
Pour le faire un
parce que je suis délégué du personnel.
Ah oui, c'est vrai, c'est notre délégué.
Pour faire un quota, syndical. Il faut quelqu'un de Clermont-Ferrand.
C'est vachement précis comme quota.
Dis-toi. Pareil, normalement, il faudrait quelqu'un de Franche-Comté, mais
quelqu'un de la province.
C'est un peu compliqué.
Non, mais je comprends que depuis Splatoon, tu l'as un peu lâché. Enfin, en même temps, t'as un très bon jeu et puis un jeu correct.
Non, Arms, franchement, est vraiment un très très bon jeu. Je trouve qu'il est vraiment super subtil. Enfin, voilà, Kenshin va me dire... Ouais, parce que c'est vrai que toi aussi, t'étais à fond sur Arms, et puis depuis que...
Ouais, bah moi, je joue pas à Splatoon, non. C'est plus les aléas de la vie, dirons-nous. Pour... Voilà. Non,
ça s'appelle après, avoir des enfants.
C'est entre autres. Et non, après, pour surtout, depuis que j'ai joué en multi-local, c'est vrai que y retourner en multi-online, ça me bottait moins. Parce que je trouve vraiment le jeu très fun en local, en fait.
Bah, c'est vrai que sans temps de latence, surtout à deux sur le même écran, parce que ouais, Splatoon a un défaut, c'est qu'effectivement on peut pas jouer en écran splitté. Alors c'était presque le cas du premier, donc c'est pas choquant, mais c'est vrai que j'ai pas réussi à convertir aussi facilement mes collègues à Arms qu'à Splatoon.
Bah, disons que c'est déjà moins ancré, dans le sens où bah, à Splatoon il y en a déjà eu un. Mais même, c'est moins... Je trouve que c'est peut-être moins facile à aborder.
Oui, puis les gens ont suivi l'image d'un Wii Boxing.
Puis ça reste un jeu de combat aussi.
Splatoon, tu dis, ouais, machin, bah vas-y, tire de la peinture partout, et puis celui qui a balancé le plus de peinture, il a gagné, quoi. Alors que Arms, t'as les différents points, t'as les différents...
Ouais, je dirais que si... j'aime bien faire régulièrement la comparaison avec Quake 3. Quake 3, c'est un jeu qui est très simple à comprendre, très difficile à maîtriser. C'est typiquement un jeu d'arcade, entre guillemets, au sens... c'est pas une simulation, quoi, c'est vraiment un jeu arcade, c'est-à-dire tu comprends en 10 secondes comment il faut jouer, et tu peux mettre des années à le maîtriser. Splatoon 2 a pratiquement ce côté-là, c'est-à-dire que finalement c'est très immédiat comme façon de jouer. Je trouve que Arms c'est beaucoup moins immédiat là-dessus, c'est-à-dire qu'on comprend très facilement comment jouer, mais les subtilités du jeu arrivent très vite dans ta gueule, et en réalité tu te rends compte que tu peux pas vraiment y jouer en étant un super débutant. C'est-à-dire que t'es vraiment obligé de t'entraîner. Et moi, ce qui me gêne toujours avec Arms, c'est le fait que je peux pas aller démarrer un match classé comme ça sans m'être échauffé un petit peu avant, c'est-à-dire sans avoir au moins fait, je sais pas, une passe du mode Grand Prix qui est le mode solo, parce que sinon
c'est la tendinite.
C'est en plus, tu as les risques de claquage, tout ça. Non, mais enfin.
Bientôt les assurances elles vont faire une assurance spéciale Arms. Vous jouez à Arms, très bien, oui, bah plus de 100 euros.
Mais non, mais très sérieusement, il faut non, c'est pas s'échauffer physiquement.
Faut vraiment se remettre dedans. Réassimiler le concept du jeu.
Et puis même reprendre les timings. Je veux dire, quand tu passes de Ribbon Girl à Springman et de Springman à Master Mommy, c'est pas du tout la même façon de jouer. Putain, t'es vraiment obligé de te.
Bah, c'est pour ça, moi, je joue qu'avec Ribbon Girl.
Est-ce que c'est pas un peu à la Blizzard dans ce sens-là? Dans le sens, enfin, il y a Easy to Play, Hard to Master, machin. Est-ce qu'il y a pas un petit, réminiscence de jeu Blizzard?
Je dirais, il y a un petit côté comme ça, effectivement, Easy to Play, Hard to Master, mais non, parce que un jeu Blizzard, tu peux faire ta première partie d'un Warcraft 3, et même si tu comprends pas toutes les subtilités, tu peux arriver à t'en sortir. Arms, je trouve que faut vraiment apprendre toutes les subtilités. C'est très compliqué d'arriver à s'en sortir comme ça. Yeah. Splatoon, je le donne à un de mes gamins. Je pense qu'il est capable de comprendre qu'il faut repeindre tout le stage et tout ça. Alors oui, s'il joue online, il va se faire déboîter parce qu'en réalité, il va se faire exécuter en permanence. Mais si tu veux, Splatoon, t'as pas forcément besoin d'être extrêmement bon pour gagner parce que finalement, c'est un jeu de gagne-terrain. Alors, si tu shootes pas un seul adversaire mais que tu peins énormément de sol, tu vas gagner.
Ouais.
Arms, si tu tombes face à un mec qui sait quand faire les shots, par exemple, il va te déboîter le cul. Si tu sais pas les contrer, tu te fais défoncer.
D'accord, donc faut vraiment se maintenir quand même à un niveau, d'où le fait que ça soit un peu compliqué de se remettre dedans
si on n'y a pas joué. Quand tu lâches un peu, après t'as un peu la flemme de te remettre dedans. C'est un cercle vicieux.
C'est un peu, ouais, mais c'est un peu, tu vois, ça, comme, j'ai envie de dire presque comme n'importe quel jeu de combat. Je veux dire, moi quand j'étais...
Oui, tout à fait, ouais.
Voilà, moi quand j'étais petit...
c'est un vrai jeu de combat, en fait.
Je n'avais pas beaucoup d'amis, j'aurais voulu.
C'est pas comme un Smash Bros, c'est à l'opposé d'un Smash Bros.
Voilà, je trouve que l'excellent contre-exemple, c'est ça. Smash Bros, tu vois, c'est ça. Easy to play, hard to master. C'est très simple de comprendre comment on joue. Il y a très peu de subtilité dans le gameplay. On peut t'expliquer comment jouer en même pas 3 minutes. Arms, t'as vu, là, on a passé un bon quart d'heure à expliquer comment ça se jouait et toutes les subtilités.
Ils ont toujours pas compris, d'ailleurs.
Et vous avez toujours rien compris parce que vous êtes des nuls.
C'est vrai, on a vu.
Vous êtes des zéros. Mais c'est exactement... voilà, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, Smash Bros, c'est le party game qui peut devenir un jeu de combat. Mm. Alors que je pense que Arms, c'est un jeu de combat.
Oui.
Pur et dur. Et voilà, donc très bon, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci avec ça. Mais si tu veux...
Moi, c'est pas le fun d'entrée, quoi, c'est ça.
C'est pas le fun d'entrée. Enfin, c'est fun quand même, mais...
Ouais, c'est fun parce que c'est coloré, mais après...
Voilà, mais
si tu joues contre quelqu'un qui sait jouer, ça va pas t'amuser, alors que Smash Bros, t'as des choses plus rigolotes, quoi.
Puis en plus, dans le même état d'esprit, je veux dire, même le Grand Prix niveau 1, donc le mode solo avec le niveau de difficulté minimum, si t'es pas passé par l'entraînement, tu te fais défoncer le cul. Mm. Puis bien, en plus.
Puis si tu tombes sur les cibles, tu mets 3 jours à le finir.
Dans le meilleur des cas. Je sais pas comment tu fais pour tomber tout le temps sur les cibles, faudrait quand même s'interroger. J'ai remarqué un truc sur...
Je vais peut-être écrire à Nintendo à ce sujet.
Bah, moi j'ai remarqué un truc sur... Vous rigolez, sur Ultra Street Fighter 2, j'ai remarqué un truc, il y a un collègue qui l'a, je l'ai aussi. Sur sa cartouche, quand on met le stage en random, on tombe systématiquement sur le stage de Ken, enfin je veux dire dans 80% des cas. Et sur ma cartouche, dans 80% des cas, on tombe sur le stage de Zangief. Alors je commence à me demander s'il n'y a pas un problème avec la fonction random sur la Switch, tu vois.
Moi je pense qu'il y a un problème avec la fonction random de Nintendo déjà. Dans leurs différents jeux.
Dans les cartouches, c'est peut-être physique, genre la différence, mais on est plus. Il n'y a plus le problème du physique pour le random aujourd'hui.
Enfin, t'as toujours dépendant.
Plus la défaillance. Je sais pas comment ça marche le hasard pour le coup sur un ordinateur.
Bah, le hasard sur un ordinateur, en fait, en général, ça se base sur une graine qui est quelque chose de réel, typiquement par exemple le numéro de série du processeur. Ça va être la graine, donc quelque chose de ce qu'on appelle de physique, de réel. Et en fait, on va la dériver plusieurs fois en plusieurs fonctions pour créer de l'aléa. Et ce qui fait que sur un ordinateur, tu peux jamais réellement créer de l'aléa. Créer de l'aléa, c'est quelque chose de très compliqué. Je me demande si la fonction random intégrée, je pense, dans le firmware de la Switch n'est pas un peu déconnante et que... Parce que ça fait plusieurs fois sur plusieurs jeux comme ça où tu mets du random et en réalité, le random, il n'est pas vraiment random. Alors, c'est peut-être Nintendo qui n'est pas très random, mais si tu veux, statistiquement, ça me paraît curieux d'être capable de tomber 9 fois sur 10 sur le stage de Zangief. Sur une cartouche ou sur une console. Alors, j'ai pas essayé en essayant ma cartouche dans sa console.
Mais attends, tu veux dire sur la Switch ?
Oui, sur Switch.
Ah, d'accord, j'avais compris, moi, sur le vieux Street Fighter 2.
Non,
j'ai pas capté sur l'Ultra. Ah oui, sur l'Ultra, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, bah,
donc, c'est bizarre.
Et t'as... Ouais, faudrait inverser les deux pour voir si ça change quelque chose.
Faudrait que je vois si ça change quelque chose. Eh bien, ça écoutez, en exclusivité pour le dojo, la semaine prochaine, nous aurons testé le côté aléatoire de la Switch.
Oh.
Ouais, avec des vraies statistiques. Fera... On va même remplir un tableau Excel. Ça va être la folie.
Un tableau Excel, que dis-tu, Mortal ?
Mais c'est complètement gueudin.
Un tableau Excel. Quel investissement ? Il investit dans une licence Microsoft.
Ah non,
je sais pas
c'est
quoi.
Le boulot, faut pas déconner.
Ah d'accord. Ok. Bon bah pas
attends,
d'investissement.
Attends, quand je joue Ultra Street Fighter 2, de toute façon, c'est au boulot. Hein.
Ah d'accord. Non, bon, bon.
Pour comme je disais, donc j'ai quand même des collègues qui sont très très fans d'Ultra Street Fighter 2 et j'ai essayé de les convertir à ARMS.
Et ça a pas marché.
C'est plus compliqué. C'est plus. Alors, tout le monde dit que c'est sympa, que c'est rigolo, que ça peut être marrant quand on s'y investit un minimum. Le retour que j'ai, c'est ça. Mais quand on leur dit alors tu vas t'investir dedans, ils font bah je sais pas.
Et après, le problème de Street Fighter, c'est qu'on a été bercé avec quoi.
Oui, après.
Donc c'est déjà un peu plus accessible, que tout le monde sait faire un Hadouken.
Mais oui, enfin moi c'est pareil, Street Fighter, j'ai besoin d'un peu d'échauffement. Hein. C'est compliqué de reprendre à froid comme ça. Hein.
Mais pour bien jouer,
je reprendrai peut-être plus facilement à froid un Street Fighter qu'un, je sais pas, qu'un Killer Instinct que j'ai pas joué depuis facile 15 ans.
Mortal Kombat.
Mortal Kombat, je reprends assez facilement parce que je connais vraiment très très bien les mécaniques de jeu. Mais tu vois, un Soul Calibur 2 par exemple, il faudrait vraiment que je m'y remette, que j'y rejoue au moins. Si tu me dis là maintenant, tu veux me mettre une branlée à Soul Calibur 2.
Bah, je te la mets.
Okay. Ok.
Le mec est trop
challenge
chaud, tu vois.
Il me faudrait, je sais pas, il me faudrait au moins 2 heures d'échauffement pour arriver à m'y remettre parce que j'ai vraiment plus du tout le jeu dans les doigts. Et c'est vrai que le seul défaut de ARMS, finalement, c'est d'être un vrai jeu de combat. Donc peut-être que dans quelques mois, en y jouant très régulièrement, j'aurais pas besoin, effectivement, de me remettre dans le bain. Et c'est peut-être pareil pour toi, Kenshin, t'auras peut-être
après,
pas besoin de ça.
Après, je pense que c'est aussi une histoire des jeux qui vont sortir sur chaque console et tout. S'ils en sortent, que tu rejoues dedans, ce sera pareil qu'avec les Street Fighter ou avec les Smash Bros. T'auras la fibre sera conservée. Quoi.
Oui, t'auras gardé l'essentiel... D'ailleurs, tiens, excellent enchaînement.
Oui. Dieu,
c'est complètement la folie. Cette émission, cool comme le fleuve Congo, hein, comme on dit là-bas. Non, c'est une vraie expression du Congo, hein, les gars.
Ah d'accord.
C'est vraiment.
Je me suis dit, ça, il nous fait son.
Non,
son
écoutez,
Jean-Marie.
Voilà, c'est. Bref. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des suites ? C'est-à-dire, ce que j'ai cru comprendre, c'est que le jeu avait plutôt bien marché en termes de commercial. En termes critiques, j'ai l'impression que les gens étaient peut-être un peu plus partagés. C'est vrai que c'est très correct, mais si tu compares à un Splatoon par exemple qui avait eu un gros succès critique dès le départ,
un succès public,
un succès commercial sûr et un succès critique aussi, j'ai l'impression que ARMS est resté un cran en dessous. Alors peut-être parce que le jeu était un petit peu austère au départ. C'est vrai qu'il y a quand même il y a quelques modes de jeu un peu rigolos, il y a pas mal de trucs à faire, mais ça reste un jeu de combat, donc il y a peut-être un peu moins de possibilités de faire des trucs foufou.
Ouais, il a 77% sur Metacritic, c'est pas mal.
C'est pas si dégueulasse que ça, mais si tu veux, je crois que Splatoon, le premier, était à
bah
89,
ouais,
une connerie
même
comme ça.
L'engouement autour, enfin, il n'y a pas eu autant de pubs, enfin, autant de bouche-à-oreille que pour Splatoon, par exemple. Quand je dis bouche-à-oreille, c'est-à-dire
les gens qui
en parlent, etc.
D'enthousiasme,
quoi.
De
ouais, voilà,
succès
d'enthousiasme
public.
Collectif, ah, exactement. Ouais,
effectivement, parce que au-delà du succès commercial, c'est-à-dire qu'un jeu qui se vend très bien, mais que les gens finissent par plus jouer, c'est pas très intéressant. Splatoon, tu sens qu'il y a vraiment une communauté avec tout un tas de gens qui y jouent, qui encouragent les autres à jouer, et c'est vrai que c'est le genre de jeu qui finalement profite un petit peu de l'effet, je sais pas comment on pourrait appeler ça, peut-être l'effet Steam, dire machin a acheté Left 4 Dead 2, du coup pour y jouer avec ses potes tu l'achètes aussi parce que tout le monde l'a acheté, et finalement Splatoon 2 fonctionne bien comme ça, je trouve que ARMS fonctionne un peu moins bien comme ça. Et malgré tout, est-ce que vous pensez qu'il y a du potentiel pour une suite? Ou est-ce que ça restera une tentative de Nintendo sans rien? Ils ont tenté un truc.
Sortie, je pense qu'il y a moyen, oui.
Juste avant, le mode 2v2 et 3v3, genre, c'est sympa aussi. Parce
alors,
que du 3v3, coup, on en a
pas
parlé.
Pas.
Ah non, c'est pas. Ah, d'accord, c'est pas pour moi. Et 2v2
Le 2v2 est très sympa.
D'accord. Et le 4, il n'y a pas un 4 free for all, genre?
Le 1v1v1.
Il y a un mode comme ça, ouais.
Ouais.
À 3, chacun pour sa peau. Ça, c'est pas très sympa.
Alors, ça
t'es
peut
vite
être
du 2 contre 1 en fait.
Ça peut être très drôle, mais tu fais vite du 2 contre 1.
et
le mode 2v2 est très sympa parce qu'en fait, si tu prends un gros coup, comme t'es relié par une espèce d'élastique à ton pote, ton pote aussi valse quoi qu'il soit en train de faire.
Ah ouais?
Ouais.
Ah, donc, c'est intelligent,
coup,
ça.
Bah, du coup, ça devient assez technique, en fait, parce que tu peux envoyer valser un mec, tu vas entraîner l'autre, qui peut reprendre un coup derrière. Ça devient assez compliqué. Assez compliqué. Pareil pour les chopes, quand tu chopes un mec et que tu le balances, bah forcément, tu balances son pote avec lui, mais avec une petite latence, qui fait que lui, il peut quand même arriver à te mettre un coup. Enfin, c'est toujours pareil, c'est un peu différent comme manière de jouer. C'est pas mon mode de jeu préféré, mais le 2 contre 2 est quand même sympa. Peut-être que c'est plus sympa, plus facile pour initier des gens, je sais pas. J'ai pas encore réfléchi à ça.
Pas facile à mettre en place.
À 2 contre des adversaires contrôlés par le CPU, ça doit être faisable.
Oui, pourquoi pas.
Mais je me dis que pour initier un collègue, par exemple, ou quelque chose comme ça, c'est peut-être plus sympa que de lui mettre une grosse branlée, quoi.
Oui, c'est y a plus sympa.
Si c'est un collègue qu'on aime pas, ça passe.
Oui, voilà, mais après, oui, si c'est Jean-Michel de la Compta, bon, on peut se permettre, enfin, surtout qu'il fait chier.
Vu le prix des Joy-Con, à mon avis, il vaut mieux pas risquer qu'il le foute dans le mur.
Ouais, voilà, c'est un peu ça.
C'est, bon, voilà.
côté compétition, parce que Nintendo avait commencé à publier 2-3 trucs, comme quoi il y avait de la compète sur ARMS. Moi, j'en ai vu des petits matchs. Ils en avaient diffusé sur l'interface de la Switch, ils en avaient diffusé sur leur chaîne YouTube, ils en avaient diffusé un petit peu partout. Il y a vraiment des mecs qui ont du niveau, surtout au Japon. Mister
Yabuki.
Pardon ?
Mister Yabuki.
Par exemple. Lui, oui, ça va, il maîtrise un peu.
Ouais.
Donc il y a vraiment des gens qui commencent à y avoir du niveau. Est-ce que vous pensez que sur la scène e-sport, ça pourrait décoller ? Est-ce que vous voyez bien ARMS à l'Evo, par exemple, peut-être pas remplacé par Smash Bros. Mais c'est vrai qu'on a vu Pokémon Tournament DX, alors que...
Bah...
Ah, mais la licence, elle porte.
Ça le trigger, ça.
Alors, voilà, trigger, non, je sais que ça le trigger. Bon, la licence est très porteuse, mais le jeu est quand même pas exceptionnel, quoi. Alors que ARMS a peut-être un beaucoup plus gros potentiel.
Je pense qu'il est plus technique que Pokémon.
Même au niveau spectacle, ARMS... Alors, parce que je pense que les pros jouent plus à la manette. Ça m'étonnerait
ça,
pas.
Ça, je suis pas sûr. Mais à présent, tous les pros que j'ai vu jouer, c'était en motion control.
Eh ben, je t'avouerai que c'est beaucoup mieux, parce que ça peut rendre très très sympa sur une scène. C'est-à-dire, si les mecs font pas des petits coups, tu vois, parce qu'à mon avis, un petit coup, ça suffit, t'es pas obligé de...
De
tendre ton bras, ouais, complètement.
Non, tu fais des petits coups, de toute façon.
Ouais, tout à fait.
Je pense qu'avec un peu de spectacle, ça peut rendre très très bien le fait d'avoir les mecs qui jouent vraiment, tu sais, qui portent leur coup vraiment sur scène. Mm. Au-delà de, genre, ils restent assis, puis
le côté
ils font des
spectacle,
petits coups, tu vois.
Truc.
Ouais, c'est ça. Un peu à la fin de Real Steel, tu sais, le film avec Hugh Jackman, là, où tu vois Hugh Jackman qui commande le robot, mais avec ses propres mouvements, quoi, et qui est sur le côté de la scène, et c'est aussi spectaculaire, en fait, que le robot qui est sur scène. Je pense que ça peut rendre très sympa.
C'est vachement intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, ce film-là, que je n'ai malheureusement pas vu en entier, mais j'avais vraiment envie de le voir, parce que je trouvais ça super sympa comme contexte, en fait.
L'histoire est un peu bateau, mais l'univers est vraiment très très cool.
Bah voilà, en fait, c'est ça qui m'attirait bien, et finalement, je me dis, c'est vrai que ARMS, ça pourrait ressembler à ça, c'est-à-dire que tu mets un écran géant au milieu de la scène, t'as les deux mecs qui ont chacun leur petit écran pour jouer, et en fait effectivement c'est vraiment t'as le côté la réalité physique du joueur qui est en train de donner des coups et qui est retranscrite dans le jeu en direct.
Ouais, exactement, je trouve que ça peut rendre très 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 bien. Après, ça demande que les joueurs portent vraiment leurs coups, donc tu perds évidemment en précision, parce que quand tu fais des petits coups, bah t'as pas besoin de reprendre ton bras en plus de reprendre ton bras dans le jeu, quoi.
Et tu perds en timing.
Ouais, exactement. Je sais. Oui, c'est vrai qu'en précision, non, pas tant. Mais oui, enfin, en timing, en tout cas, t'es plus lent.
Ce qui est rigolo quand tu regardes les vrais pros jouer, c'est qu'en fait, les mecs jouent debout. Ce qui est déjà relativement
moi,
rare.
Debout.
Toi, tu joues debout ?
Ah oui.
Ah, moi, je joue assis.
Ah, c'est ça la différence. C'est pour ça que tu n'as pas le niveau 4.
Ah, c'est pour ça que j'ai un peu du mal.
C'est pour ça que tu n'as pas les cibles.
C'est pour ça que j'ai un peu du mal. Non, les cibles, non, je pense que c'est. Non, mais voilà, les mecs jouent debout. Et ils se donnent quand même. Enfin, tu vois qu'à la fin, les mecs, je vais pas dire qu'ils transpirent, faut pas déconner, mais tu peux transpirer. Tu peux transpirer. C'est pas l'objectif, mais tu peux transpirer.
Autant en mode canicule.
Ah oui.
Mais vraiment, je pense que ça a vraiment ce potentiel de spectacle en plus de seulement spectacle au niveau du jeu, quoi.
Oui. Après, ça s'aggrave, je trouve, à regarder, pour avoir un peu regardé ce qui s'était fait à l'Ecume notamment, c'était pas mal le tournoi, c'était assez. Ça bouge, quoi, c'est vraiment sympa.
Oui, puis même si on n'y connaît pas grand chose, parce que, effectivement, à l'E3, on n'avait pas encore. Enfin, nous, on avait joué un peu au jeu, mais je veux dire, on n'avait pas encore toutes les subtilités. On devine assez bien ce qui se passe. Ça reste très lisible comme jeu. Par rapport à d'autres jeux de combat, je parlais de Guilty Gear tout à l'heure. Guilty Gear, c'est totalement illisible. Enfin, je veux dire, quand t'as pas pratiqué un minimum, tu ne comprends pas ce qui se passe à l'écran.
C'est exactement ce que j'ai te demandé, parce que le fait que ça bouge constamment, ça peut rendre le truc illisible. Et donc non, apparemment.
Bah non, je trouve que le jeu est vachement lisible en fait.
En fait, t'as beaucoup d'espace. T'arrives quand même. T'as une vision quand t'es en mode spectateur. T'as quand même une vision globale et non, je suis assez d'accord avec Mortal. Ouais.
Quand ils sont je regarde là, un petit truc d'e-sport, ouais, c'est pas, ils sont pas, enfin la vue est pas centrée sur un joueur, c'est-à-dire que le c'est une vue qui est aérienne.
C'est une vue spectateur en fait.
Ouais voilà, c'est une vue spectateur et plus au sens, quasiment vue du dessus quoi.
Voilà, mais je sais pas si t'as déjà regardé des compétitions d'e-sport, parce qu'il en est passé quelques-unes sur ESPN, quelques chaînes américaines, il y a quelques chaînes françaises apparemment qui se sont tentées aussi.
Canal Plus a des droits.
Canal Plus avait des droits, ouais. Et en fait, quand tu regardes, t'as des jeux qui ont pas grand intérêt, c'est-à-dire que quand Canal Plus a fait le tournoi FIFA 16 ou FIFA 17 ou je sais pas quoi, bah en fait, tu vois un match de foot virtuel, donc tout le monde comprend, c'est très lisible.
Oui, c'est vrai.
Mais l'intérêt est quand même limité.
C'est un match de foot.
Quand les mecs faisaient des jeux des FPS, finalement c'est pareil, c'est très lisible. Parce que tu comprends ce qui se passe, le mec il arrive dans un couloir, il tire sur un mec. Bon, il y a quelques exceptions, c'est-à-dire que des fois t'as le mec, il se penche à peine, il lâche une balle, il met un headshot à l'autre bout de la map. Bon, t'as pas vu ce qui s'était passé parce qu'en réalité c'est allé très très vite. Et quand c'est diffusé en télé, c'est diffusé en 30 images secondes, donc t'as pas forcément toujours le. Enfin, tu vois pas toujours très très bien. Mais ça reste assez lisible, ça reste assez compréhensible de l'œil du néophyte. Et le problème pour moi, c'est quand t'arrives sur des jeux genre effectivement des jeux de combat, j'en ai vu quelques-uns. Alors Street Fighter, nous on a un peu l'habitude, ça reste lisible, mais quand tu prends des gens qui sont des néophytes, Street Fighter, c'est pas si lisible que ça en fait. C'est pas si évident que ça. Et t'as des jeux qui sont mais totalement illisibles, et si t'es pas initié, c'est pas la peine. Des trucs de League of Legends, c'est juste imbitable. Imbitable. Tu peux pas regarder
plus,
ça.
Le niveau spectacle, il y a quasiment que la deuxième phase en fait qui est intéressante. Enfin. J'ai pas spécialement regardé pour le coup. Donc j'ai ça un peu.
Je t'encourage à le regarder.
Je suis peut-être un peu langue de vipère.
Mais faut écouter les commentateurs surtout de ces trucs-là, qui utilisent tout un tas de termes techniques, mais c'est imbuvable.
Ah oui, non mais ça, mais même sur Hearthstone. Alors petite digression, mais même sur Hearthstone, quand ils sont constamment à parler de termes en anglais, je suis là, mais ça te prend pas plus de temps de le dire en français, genre clairement. Genre, oui, ah, il a top deck cette carte. Non, il l'a pioché, genre c'est plus compréhensible pour tout le monde.
Non, il a top deck, il l'a trop top deck.
Oui, non, il a top deck cette carte, c'est incroyable. Il avait, oui, d'accord, il a pioché en fait. Enfin, genre.
Oui, non, oui, on est d'accord.
Il y a tout un tas de trucs comme ça.
Il y a ce côté un peu ridicule là-dedans aussi, mais je trouve que certains jeux sont vraiment illisibles en e-sport, alors que Arms.
C'est vrai.
Même pour le néophyte, c'est parfaitement lisible en e-sport parce que finalement, c'est un peu comme regarder un match de boxe. Quoi.
Ouais, enfin, exactement. Je veux dire, okay, y a des c'est pas si loin de la boxe.
Voilà, il y a des explosions, il y a des flammes, il y a des mecs avec des bras qui ressortent. Bien, ça saute un peu dans tous les sens, ça bouge beaucoup, mais on voit très bien ce qui se passe. Beaucoup plus lisible qu'un Street Fighter 2 par exemple, où l'écran finit vite par être très un Street Fighter 4 ou 5 pardon, où l'écran finit vite par être très encombré par tout un tas de bordel. Pas forcément très lisible, beaucoup plus compréhensible qu'un League of Legends où ah putain, il lui a nerfé son fufu avec son Imba, mais nique ta mère, ça veut dire quoi, bordel.
Ouais, c'est ça, genre laisse-moi regarder le truc, genre, me
putain,
dénigre
je
pas.
Je comprends déjà rien à ce qu'il fait le mec là,
mais
il
même
recule, il avance.
Mais là, c'est pas ultra lisible, mais c'est le fait qu'il soit beaucoup comme dans Overwatch en fait, c'est le même problème. C'est peut-être pour ça que Arms est très lisible, c'est parce que bah, t'as que deux joueurs à l'écran.
Oui, et puis là, les arènes sont assez vides en fait.
Extrêmement réduites.
Mine.
Oui, parce qu'on n'a pas parlé des arènes, mais c'est vrai que les arènes sont. T'as une arène par personnage, en gros, comme dans pratiquement tous les jeux de combat.
Mais au final, c'est pas plus mal que ce soit assez vide.
Oui, c'est assez vide, c'est assez réduit. C'est-à-dire, soit c'est un carré, soit c'est un rond. De temps en temps, il y a des obstacles dessus où il y a des.
Elles évoluent légèrement, il y a quelques
si
trucs à casser.
Si je peux permettre, j'ai vu un rectangle.
Merci beaucoup, Galaxy.
Journaliste au total.
La seule qui est un peu relou, c'est celle de Ninjara qui est en pente. Donc le mec qui est en hauteur a tendance à avoir un petit ascendant sur le mec qui est en bas.
Celle de King Cobra aussi qu'ils ont modifié pour le...
Justement, ah, ils ont modifié,
et ils ont enlevé des plateformes qui bougent en compétition.
Oh classé. Putain, heureusement, parce que putain, c'est atroce, quoi.
Et oui. Du coup, en fait, ça devient une arène hyper basique, quoi.
Oh, c'est des Chinois qui jouent.
C'est peut-être pas plus mal.
C'est les Japonais qui font de l'e-sport sur Splatoon 2. Mais ouais, ouais, je regardais, ouais, c'est beaucoup moins lisible qu'un Arms, hein, pour le coup. Mais, donc c'est ouais, vrai non, que Arms mais... est très très lisible.
Je trouve, mais... je trouve que pour le côté e-sport, t'as le côté finalement spectaculaire du mec sur scène, qui est debout, qui est en train de donner des coups. T'as le côté spectaculaire de ce qui se passe dans le jeu, parce que t'as
d'ailleurs, c'est là, pas des mis explosions en avant.
Partout. Non, c'est pas toujours mis en avant.
Le mec sur scène, là, pour le coup, il n'y avait pas de caméra sur lui. Et je trouve que c'est peut-être une erreur. Ouais,
c'est peut-être une
parce que ça peut rendre très très bien. Après, à voir, vraiment, parce que si le mec porte pas ses coups, bon bah...
Voilà, si, quoi, mais même quand tu portes pas tes coups, en réalité, tu passes ton temps à bouger tes poignets, machin. Je trouve que c'est...
Très vivant.
C'est très vivant, ouais. C'est-à-dire, par rapport à... Moi, j'aime bien quand je stream, par exemple, j'aime bien avoir la caméra sur la manette pour qu'on voit ce que je suis en train de faire comme manipulation vraiment sur la manette.
C'était la grande question, c'est de mes potes. Pourquoi il y a une caméra sur la manette?
On est enfin la réponse. C'est plus intéressant d'avoir la caméra sur la manette que d'avoir la caméra sur la tronche du mec. C'est intéressant de temps en temps d'avoir la caméra sur la tronche du mec pour voir sa réaction, si tu veux, mais avoir la caméra sur la manette, ça permet de voir réellement ce qu'il est en train de faire et comment il manipule.
Ouais,
et comment il appuie sur les boutons et ainsi de suite. Là, il y a le côté, effectivement, même si tu portes des petits coups et des petits machins et tout ça, et bah, t'as le côté, bah, t'es obligé de pencher tes poignets, tac, tout d'un coup tu vas te mettre en garde, tu vois vraiment bien ce qui se passe, et c'est très visuel aussi. Tu vois tout de suite quand le mec met sa garde, quand il donne un coup, quand t'as pas... T'as ce côté extrêmement tactile, finalement, très... Tu comprends tout de suite ce que le mec fait quand tu regardes ses bras, quoi.
Et en plus, proche de la réalité, parce que bah, c'est des gestes qu'on retrouve dans la boxe, quoi.
Tout à fait. Dire,
évidemment, simplifié, parce que bah, sinon.
Parce que c'est un boxeur professionnel.
Et en plus, c'est Nintendo, mais.
Non, mais même un voilà. boxeur professionnel, je sais pas si vous imaginez, hein, c'est un peu.
Le mec te détruit le Joy-Con, en plus.
Bref, genre, pour terminer, parce qu'il va quand même falloir qu'on se quitte.
Oui.
Où est-ce que vous voyez le jeu dans 6 mois, 1 an, 2 ans Nintendo a déjà annoncé un nouveau personnage, Lollapop. Avec qui va être accompagné de nouveaux points, si je ne dis pas de bêtises, parce que je pense pas les avoir déjà vus.
C'est ce que j'ai cru voir, oui.
Ouais.
Un nouveau stage, qui, alors ce coup-ci, est un Tetris. Enfin, tu sais, c'est la pièce un peu relou du Tetris, là. Celle qui fait un...
Le S ?
Voilà, le S. Donc c'est ni un carré, ni un rond, ni un rectangle. Ah. Hein, voilà. Ça, c'est pour les fans de géométrie comme Galaxies.
Bonjour. C'est moi. Moi, c'est Bobby.
Voilà, où est-ce que vous voyez le jeu dans 6 mois, 1 an? Est-ce que vous pensez que Nintendo va continuer à mettre, je sais pas, un nouveau personnage tous les 6 mois? Vous continuez à maintenir le truc? Est-ce qu'ils vont plutôt essayer de pousser une suite? Est-ce qu'ils vont essayer vraiment de pousser l'e-sport? Voilà, Kenshin, comment tu vois le jeu dans 6 mois, 1 an, 2 ans?
Bah, moi, j'espère qu'ils vont pousser l'e-sport. Alors, je sais pas ce qui est prévu à ce niveau-là, notamment au TGS, ils vont continuer leur petit tournoi comme ils ont fait à la Japan Expo ou à l'E3. Là, je pense que ça peut être assez médiatisé et pousser le jeu vers le haut. Et après, je pense que ça va continuer pendant un petit moment, pendant un an, je pense qu'on va avoir des mises à jour régulières. Et ça va faire du bien au jeu, j'espère qu'il y aura une suite. Voilà.
Personnellement, je pense.
C'est déjà bien.
Oui. Non, je pense vraiment que Nintendo a peut-être appris de son erreur avec Splatoon. Dans le sens où Splatoon, j'avais pas l'impression que le 1 avait vocation à être mis à jour régulièrement, à amener de l'e-sport, etc. D'où le fait de devoir sortir Splatoon 2. Moi, je le vois comme ça. Et donc, avec Arms, ils ont fait quelque chose qui peut évoluer.
Ouais.
Justement, bah, on le voit avec les nouveaux personnages, les nouvelles arènes, etc. Dont tu parlais tout à l'heure, Mortal. Donc, je pense qu'il peut évoluer et être poussé sur le devant de la scène e-sport comme un jeu qui est plus spectaculaire, comme on disait tout à l'heure. Que
je pense qu'il y a un mouvement qui s'amorce un petit peu aussi, puisque Nintendo, la dernière mise à jour de Arms, va permettre de modifier les touches et la sensibilité du motion control. Pour moi, le jeu est très très bien calibré au départ. Le seul truc bizarre quand on joue avec une manette, c'est le fait que la garde soit sur le clic du stick gauche, ce qui est quand même pas le truc le plus pratique du monde. Il y avait d'autres
maintien
touches,
ou
ça. En maintenant, ouais.
D'accord.
Donc c'est vraiment pas. Enfin, c'était pour moi le seul truc un peu choquant là-dedans, c'est je vois pas pourquoi ils ont foutu ça là. Mais pour le reste, le jeu est quand même calibré au poil de fion, donc si les gars te laissent modifier ça, à mon avis, c'est bien effectivement pour s'adresser à des joueurs avec un très très gros niveau qui ont éventuellement besoin de calibrer de manière plus fine un certain nombre de réglages.
Et puis ils écoutent la demande des joueurs, ça c'est plutôt pas mal.
En plus,
c'est pas toujours le cas sur leur jeu. D'accord. Et par contre, juste pour...
Et la critique était Nintendo, là.
Juste pour en rajouter un peu sur ce qui pourrait être intéressant, c'est étoffer le mode solo, quand même. Vraiment donner envie à des gens qui ne veulent pas d'un jeu compétitif de venir dessus et d'y prendre goût avec un mode solo, un mode histoire.
Peut-être un truc un peu plus progressif, honnêtement. Voilà.
Ouais.
Parce que c'est vrai que ça manque. Drosgar, un avis sur le sujet ?
Comme vous l'avez bien senti, j'ai pas été hyper concerné par le jeu. Enfin vraiment, il m'a changé.
Grâce à nous.
Oui, grâce à vous, je vais l'acheter. Et puis
on t'a convaincu qu'il fallait le faire.
Non mais voilà, le truc c'est qu'il y a pas le truc qui m'a poussé à l'achat, qui m'a vraiment accroché. Et je pense que c'est peut-être le problème en fait de la première licence Nintendo. Splatoon aussi, au final, je l'avais acheté, j'y ai joué un peu, mais il n'y a peut-être pas ce truc qui m'a poussé à jouer suffisamment longtemps. Le 2, je ne l'ai pas encore lancé, parce que j'attends d'avoir suffisamment de temps devant moi pour vraiment pas lâcher au bout d'une semaine, en fait. Donc je me retiens encore un petit peu, mais je serai prêt pour la semaine prochaine.
Hein, il se retient avant de tout lâcher.
Mais
ça pourrait être la citation du jour, je suis trop content.
On parle bien de jeux vidéo. Hein.
Oui, tout à fait, comme d'habitude. Et du coup c'est vrai que pour Arms ça sera un peu en fait Splatoon, et c'est vrai que c'est une nouvelle IP, les personnages m'ont pas, enfin en fait y a rien qui m'a attiré plus que ça et au final je suis resté un peu sur le bas côté, donc s'il y a un 2 pourquoi pas, mais enfin on a déjà parlé tout à l'heure, faudrait déjà quand même qu'il y ait des vraies nouveautés, parce que si c'est un 2 qui ressemble comme Splatoon au final 1.5, ça ne sert à rien et ça m'intéresse pas. Pour ce qui est du sport, j'aime pas vraiment le sport à la base, donc ça me, enfin peu me chaud aussi de ce côté là. Voilà, j'ai lâché le pomme chaud, c'est
donc,
bon.
Donc pas tenté au départ, personne n'a vraiment tenté de t'initier au truc ou de te pousser un peu, il n'y a rien qui t'y pousse, donc finalement ça t'intéresse pas plus que ça.
Bah en fait, si, j'étais un peu tenté au départ, mais parce que c'était un des seuls jeux de la Switch, donc à l'annonce et tout, je trouvais ça sympa, mais au final, si c'est acheter un jeu pour acheter un jeu, autant mettre 40€ ailleurs.
D'accord, non mais je comprends. On va se quitter là-dessus.
Attends, juste avant, oui au Leclerc, il y a une offre pour 6 verres de 24 centilitres achetés, il y en a un offert. Voilà, je voulais juste le signaler parce que je pense que c'est important. Ça fait 12 verres pour 3 euros quand même.
Moi j'ai une question quand même, Galaxy. Est-ce que vous faites des paris avant l'émission, avant que j'arrive, à celui qui placera la plus grosse connerie pendant ? Non mais c'est
alors,
juste pour savoir.
Parfois on le fait, en général il perd.
Mais vous êtes des connards ?
Mais non, c'est faux. C'est totalement faux.
Attends, c'est vrai qu'on est des connards.
On va mettre le lien sur Nintendo Joe parce que je pense que la France doit savoir quand même.
Putain. C'est...
Non, mais attends, mais
ça
pas
fait la France insoumise.
Ça fait 25 centimes le verre. Ils sont beaux, plutôt résistants dans tous les hyper Leclerc.
Bref, donc nous allons nous quitter et nous allons nous quitter en donnant un petit conseil à nos amis de la jante féminine.
C'est grand, que nous n'avons pas, du coup.
Une nouvelle membre sur le dojo.
Il y a une fille sur le dojo, c'est extrêmement surprenant. Ça arrive une fois tous les 10 ans.
Et parce général, que c'est une vraie fille, ça.
C'est compliqué.
Elle est majeure.
Putain, ouais. C'est pour ça qu'elle fuit.
Donc, mesdames, la seule personne de confiance pour garder un secret, c'est votre mari. Voilà, il peut pas le répéter vu qu'il a pas écouté.
C'est bien trouvé.
Voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Ah, j'ai oublié de mettre la musique. Attendez, je suis pas du tout à la rue.
Voilà. Totalement professionnel, comme je vous disais, les verres.
Cette émission est totalement professionnelle. On se retrouve la semaine prochaine où on parlera de Splatoon 2. Merci beaucoup, Kenshin, d'être venu avec nous parler de Arms.
C'est un plaisir.
Merci, Kenshin.
Merci, Drosgar. Merci, Galaxis. Ciao, tout le monde. Bisous, bisous.
Salut.
Bisous.
Bar.